a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant dans RFI Soir. Et c'est avec vous, Émile Leclerc. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa. Alors depuis Dimanche politique sur RFI la semaine dernière, ce qui a fait la chronique politique, c'est cette affaire de restaurant clandestin qui aurait été fréquenté par des ministres. L'organisateur de ce dîner du Palais Vivienne a finalement parlé de poisson d'avril. Et le chef cuisinier, Christophe Leroy, dément sur BFM TV après avoir été placé en garde à vue.
Je n'ai jamais servi des membres du gouvernement. Jamais, jamais, jamais. Je vous le dis droit dans les yeux. Il n'y a eu aucun membre du gouvernement, pas plus ministre que secrétaire d'État ou autre. Donc voilà, ça je l'ai dit à plusieurs reprises. L'audition a été longue, on est arrivé à 10h, on est reparti vers 18h30-19h. On a été très respecté, très bien traité, mais ils ont été très insistants sur tous ces points.
Pas de ministre donc dans ce dîner, mais il y a eu un déjeuner avec un ancien ministre. En effet, le député européen LR Brice Hortefeux reconnaît avoir mangé avec l'éditorialiste politique Alain Duhamel dans un appartement privé du 8e arrondissement de Paris, transformé en restaurant clandestin, tenu par Christophe Leroy, que l'on vient donc d'entendre. Parmi les réactions du jour, celle de Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement National, qui condamne toute infraction à la loi, mais dit comprendre certaines choses.
J'ai du mal à condamner des gens qui ne peuvent plus travailler depuis un an. Je rappelle que les restaurants, sur les 12 derniers mois, ont été fermés 9 mois sur 12. Donc beaucoup aujourd'hui sont arrivés au bout de la trésorerie, de ce qu'ils peuvent mettre pour payer les charges quand on a 1500 euros d'aide. Comment faire face à 10, 15, 20 000 euros de charges fixes? Donc je dis qu'effectivement, il faut respecter la loi. Lorsqu'il y a des restaurants clandestins, lorsqu'il y a des dîners clandestins qui sont organisés de manière massive sous les dorures de palais parisiens, on a un peu le sentiment, si vous voulez, qu'il y a d'un côté des gens qui respectent le confinement, et les Français, ils ont tout respecté depuis un an. Les restaurateurs, en grande partie, ont respecté très largement les règles sanitaires. Et c'est vrai que quand les Français voient que certains ne respectent pas, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Les images avec la police judiciaire, avec les gardes à vue, etc., il faut savoir raison garder.
Cette affaire dite des restos clandos met le garde des Sceaux en colère. Éric Dupond-Moretti était sur France 3 la mi-journée.
On ne parle pratiquement que de cela. La presse a fait ce qu'elle a cru devoir faire. Mais moi, je suis un adepte fervent de la preuve. Est-ce qu'on veut une époque de délation? Est-ce que l'on veut une époque de calomnie, de suspicion? Au fond, il nous appartiendrait presque de démontrer que nous n'y étions pas. C'est quand même extraordinaire, cette chose-là, parmi tant d'autres. Ça peut inciter des gens aux prochaines élections à ne pas aller voter.
Émile Leclerc, directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa, certains parleront de tempête médiatique dans un verre d'eau politique. D'autres penseront qu'il y a là un nouvel exemple d'une certaine fracture sociale. Les puissants, les riches qui font la morale et la loi qui n'est faite finalement que pour les autres.
Oui, cette fracture sociale, elle est pas nouvelle. Hein. La rupture entre le peuple et les élites, ce sentiment, il est pas nouveau. On l'a vu d'ailleurs durant la séquence des Gilets jaunes. C'était l'un des principaux reproches que faisaient les Gilets jaunes aux élites. Je rappelle simplement quelques chiffres dans le baromètre de la confiance qui est publié chaque année. 16% des Français nous disent faire confiance aux partis politiques et 28% font confiance aux médias. Donc il y a une vraie crise des institutions et ce type d'actualité peut effectivement renforcer cette défiance et pousser les électeurs à soit s'abstenir, soit aller voter pour des partis.
Et effectivement, Éric Dupond. Oui, Dupond-Moretti dit que cela peut pousser certains à ne pas voter, on vient de l'entendre. Et j'allais vous demander justement, cette affaire peut-elle alimenter le vote contestataire, lequel profite généralement toujours aux extrêmes?
C'est exactement ça, c'est un argument supplémentaire pour les partis contestataires plus extrêmes qui rejettent les partis traditionnels dits de gouvernement. Donc c'est une actualité supplémentaire. Je ne pense pas que ça change fondamentalement les choses parce que la défiance, elle est là, elle est installée depuis très longtemps. C'est un événement, mais c'est un événement marquant qui peut encore engendrer, en tout cas qui ne va pas améliorer la défiance qu'avaient les Français à l'égard des institutions et des élites au sens large.
Le nombre de patients atteints du Covid-19 traités dans les services de soins critiques s'établit à 5838 ce soir. Aujourd'hui, le gouvernement annonce que l'intervalle d'injection pour la deuxième dose sera allongé, un rappel de 42 jours à 42 jours au lieu de 28 actuellement. Puis également que toutes les personnes âgées de 55 ans et plus pourront se faire vacciner à partir de demain avec de l'AstraZeneca. Encore faut-il qu'il y en ait comme prévu, car le laboratoire ne remplit pas forcément son planning de livraison, 4 fois moins que prévu. Écoutez ce qu'en disait disait tout à l'heure Clément Beaune, le secrétaire d'État français chargé des affaires européennes.
AstraZeneca, le problème, c'est qu'ils n'ont pas été transparents. C'est qu'il y a un contrat avec l'Union européenne qui prévoit qu'on mobilise 4 sites de production, pour être précis, dont certains au Royaume-Uni, et que ces sites de production au Royaume-Uni n'ont livré aucune dose à l'Europe. Donc on a adressé, sans être trop technique, ce qu'on appelle une mise en demeure ces derniers jours.
Mais immédiate, dans ces cas-là ?
Immédiate, ça veut dire que c'est le début d'une procédure juridique possible si le laboratoire ne corrige pas les choses.
Clément Beaune sur RTL ce matin. Émile Leclerc, ce vaccin AstraZeneca est mal aimé par les Français. Ils sont nombreux à refuser qu'il leur soit inoculé. Et vous le constatez dans le sondage Odoxa que vient de publier le Figaro.
Oui, exactement. Mené cette semaine, on a interrogé les Français sur leur confiance dans chacun des vaccins qui étaient sur le marché. Et clairement, le AstraZeneca pose vraiment problème dans l'opinion, puisque 71% des Français nous disent « je n'ai pas confiance dans ce vaccin », alors qu'ils sont 70% par exemple à faire confiance au Pfizer ou 65% au Moderna. Donc c'est vraiment le vaccin qui pose problème dans l'opinion. Et on entend souvent les témoignages de médecins qui nous disent que des patients refusent le AstraZeneca. Ben, on constate aussi dans les sondages, il y a un vrai problème. Alors le AstraZeneca a multiplié les polémiques depuis son lancement, mais voilà, aujourd'hui, ça pose un vrai problème dans la stratégie vaccinale du gouvernement, parce que c'est des millions de doses qui doivent être injectées d'AstraZeneca.
Mais oui, parce qu'il y a 4 vaccins autorisés en Europe, et cette affaire arrive au mauvais moment pour la campagne de vaccination française, alors que le gouvernement français veut accélérer le processus. Votre sondage également montre, en tout cas, que les Français sont tout à fait disposés à se faire vacciner avec les autres.
Avec les autres, s'ils ont le choix, en tout cas avec les autres. Et on l'a vu, il y a des exemples de patients qui refusent le AstraZeneca. Mais effectivement, comme vous le dites, de plus en plus les Français souhaitent se faire vacciner. Aujourd'hui, ils sont cette semaine, quand on les a interrogés, ils étaient 70% à nous dire je compte me faire vacciner. Pour rappel, juste avant Noël, on a eu un pic au plus bas, donc avant la campagne de vaccination, il y avait seulement 42% des Français qui souhaitaient se faire vacciner, et ça a augmenté progressivement jusqu'à atteindre ce niveau aujourd'hui, donc c'est plutôt encourageant de ce point de vue-là, parce que c'était un vrai doute dans la stratégie vaccinale du gouvernement, c'est qu'à un moment, on atteigne un plafond, et aujourd'hui, ce plafond est quand même assez élevé, on peut espérer que ça augmente encore dans les semaines et mois à venir.
Vous parlez de stratégie vaccinale du gouvernement, les Français ne croient pas dans les objectifs fixés par le président de la République.
C'est ça, on a testé une des promesses du président de la République, qui est de vacciner tous ceux qui le souhaiteront avant la fin de l'été. Eh bien, 64% des Français nous disent « je ne crois pas dans cette promesse ». En fait, il faut mettre ce chiffre en relief avec la confiance qu'ont les Français à l'égard du gouvernement dans cette stratégie vaccinale. Ils jugent qu'elle n'est pas menée à un bon rythme à plus des 3/4, elle n'est pas efficace, elle n'est pas claire, elle n'est pas cohérente. Et finalement, c'est la suite logique du rapport qu'ont entretenu les Français avec le gouvernement dans cette crise, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques sur les masques, il y a eu beaucoup de critiques sur les tests, et donc les vaccins, c'est un élément supplémentaire de défiance des Français vis-à-vis du gouvernement. Ils ont du mal à faire confiance à ce gouvernement.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Dans l'actualité politique, il y a encore cette question. Faut-il ou pas reporter les élections régionales prévues les 13 et 20 juin? Question qui n'en finit pas de faire débat. Consulté par le gouvernement, les maires doivent fournir leur réponse demain. Michel Fournier est un de ceux-là. Il préside l'Association des maires ruraux de France, qui regroupe 10 000 communes.
Si le gouvernement nous demande s'il est possible pour des communes, on peut ou pas tenir le scrutin avec les dépouillements et assurer cela dans des conditions de sécurité pour tout un chacun, selon les prescriptions du Conseil scientifique, on ne peut pas le faire. Ça, c'est très clair. Nous, les maires ruraux, on est très pragmatiques. La priorité, c'est comment sortir de cette mouise et comment faire en sorte que l'on puisse retrouver une sérénité de vie que tout le monde a besoin.
Propos tenu sur France Info cet après-midi. Cette consultation précipitée du vendredi soir pour le lundi matin ne paraît pas être une méthode appropriée pour traiter une question de cette importance, a réagi l'Association des maires de France. Le secrétaire d'État Clément Beaune ironise sur la position de cette association.
Moi, je ne cherche pas à rentrer dans la polémique. Je pense qu'en tout cas, nous dire que c'est mal de consulter les maires, c'est un peu paradoxal de la part d'une association de maires.
La réaction maintenant numéro 2 du Rassemblement National. Jordan Bardella sur BFM.
Je pense que ces tergiversations sont une nouvelle preuve de l'amateurisme du gouvernement. Ça fait plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, qu'on sait qu'il va y avoir des élections départementales et des élections régionales. Et on se pose la question maintenant, à 15 jours du dépôt des candidatures, de savoir si oui ou non on va maintenir les élections. S'agissant de la situation sanitaire, nous, on est extrêmement clair là-dessus. Nous n'avons pas les données scientifiques auxquelles a accès le gouvernement et nous suivrons le gouvernement. Si le gouvernement estime que la situation sanitaire est tendue, qu'elle exposerait la population et les gens qui vont s'occuper du dépouillement, par exemple, qui vont s'occuper de la tenue des élections, et qu'elle exposerait ces personnes-là à un risque, alors à ce moment-là, nous soutiendrons un report à la rentrée. Mais je dis juste qu'on ne peut pas faire repartir le pays. On ne peut pas indiquer qu'on va vacciner massivement, qu'on va permettre la réouverture des lieux de culture, des restaurants, des commerces, mais qu'en même temps, on paralyserait et on confinerait la démocratie.
Émile Leclerc d'Odoxa, pour ou contre le report du scrutin, vous avez posé la question aux Français.
Oui, il y a deux semaines, et puis on l'avait déjà posé en octobre, quand il était question de faire les élections régionales en mars. Et à chaque fois, 7 Français sur 10 nous disent il faut reporter si la situation sanitaire l'impose. Donc en fait, c'est clairement pas une préoccupation pour les Français. Hein. C'est pas comme si c'était une élection présidentielle. C'est un vrai sujet d'un point de vue dans le microcosme politique, mais on voit bien que dans la population française, c'est pas une préoccupation. S'il faut voter plus tard, c'est pas un problème pour les Français.
Semaine après semaine, éclosent ici et là des annonces de candidature pour la présidentielle de l'année prochaine. Le secrétaire national du Parti communiste, choisi par les communistes en 2018 sur la promesse qu'il y aurait un candidat à la prochaine présidentielle, a été investi aujourd'hui par la conférence nationale du parti. 15 ans après Marie-Georges Buffet, Fabien Roussel donc annonce vouloir porter les couleurs du Parti communiste. Émile Leclerc, c'est une mauvaise nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon qui, lors des deux dernières présidentielles, avait derrière lui le Parti communiste.
Oui, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est une partie des électeurs qui pouvaient voter pour lui, hein, plutôt à proximité idéologique. Maintenant, le Parti communiste, depuis très longtemps, fait des très mauvais scores aux élections nationales. En 2016, je rappelle le score de Marie-Georges Buffet qui était 2%, et aujourd'hui, quand Fabien Roussel est testé dans les intentions de vote, il fait 2 à 3%. Donc c'est quelques points de moins pour Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps, ça montre que le Parti communiste est vraiment très loin de peser dans le débat démocratique actuel.
Alors, il y a tout de même 25 parlementaires communistes, les communistes qui dirigent un seul département, le Val-de-Marne. Sur le plan local, il y a quand même 7000 élus locaux. Du reste, que représente encore l'idéal communiste en France?
Pas grand-chose si on s'en fie aux élections, en tout cas nationales. Hein, c'est environ 2% des électeurs. C'est vrai qu'au niveau local, le parti arrive à peser, à négocier finalement des accords pour avoir quelques villes et quelques élus locaux. Mais c'est vrai qu'au niveau national, on voit bien que le Parti communiste peine vraiment à percer, et depuis très longtemps.
Merci pour ces commentaires, Émile Leclerc, directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa. C'était Dimanche politique sur RFI.